écoutez Radio Grenouille, nous sommes sous la tente qui a été plantée sur le cours d'Estienne d'Orve, la tente blanche, un beau milieu autour d'une table, un forum radiophonique imaginé par les Littorales dans le cadre de leur manifestation. Donc les Littorales, ça a commencé le 12 octobre dernier, ça se déroule jusqu'à demain, ça se passe pas mal autour du cours d'Estienne d'Orve et sur le cours d'Estienne d'Orve, mais aussi à la bibliothèque des archives départementales. Ce sont des rencontres autour du livre thématique Frontières Mouvement, organisé par l'association Libraire à Marseille et Libraire du Sud. Je suis en compagnie de Marie-Dominique Russi, qui est directrice de l'association Libraire à Marseille, de Laetitia Bourgine de l'association C'est la faute à Voltaire, de Christine Bernard de l'association ACLM, de Ramzi Tadros d'Approche Culture et Territoire, de Agnès Gatef qui est la libraire de l'Attrape-Mot. Et nous allons donc parler pendant une petite heure sur Radio Grenouille et sous cette tente du cours d'Estienne d'Orve du livre à Marseille. Alors pour commencer, Marie-Dominique, est-ce que tu peux nous parler de cette manifestation, les Littorales, depuis au départ, je crois qu'à Marseille, les libraires organisaient quelque chose qui s'appelait Lire en fête. Depuis quelques années, ça s'appelle les Littorales. Et c'est une rencontre pour mettre en valeur, je crois, le travail des libraires et des rencontres thématisées.
Oui, tout à fait, Marc. Donc, l'association Libraire à Marseille rassemble 19 libraires indépendants de la ville. Depuis, pendant 18 ans, nous avons organisé Lire en fête à Marseille. On était installés au Parc Chanot avec une quarantaine d'associations, 4 salons et bien sûr au cœur la venue d'écrivains et des rencontres littéraires. Depuis 3 ans, cette manifestation sous cette forme-là, un peu grandiose, au Parc Chanot s'est essoufflée. Et du coup, depuis 3 ans, nous sommes installés donc sous chapiteau, sur le cours d'Estienne d'Orve. Et nous avons initié, pour affirmer cette manifestation en tant que festival de littérature, nous avons initié de travailler la programmation littéraire à partir d'un thème. Donc l'année dernière, c'était le thème « Moi et les autres ». Cette année, c'est « Frontières en mouvement ». Pourquoi ces thèmes ? Bien, grosso modo, le fil rouge, c'est de l'intime au collectif et inversement. Et c'est ce dont traite la littérature. Et toutes les questions que soulève la littérature, auxquelles elle tente de répondre en explorant les fragilités, les forces des humanités et toutes les, tous les mouvements de pensée et de sensibilité a fortiori dans le monde d'aujourd'hui en mouvement rapide, voilà.
Pourquoi ça s'est épuisé, Lire en fête ?
Ça s'est épuisé tout simplement parce qu'on était au Parc Chanot, un petit peu noyé, un petit peu perdu entre le salon de l'immobilier, le salon du handicap. Et quand tous ces salons avaient lieu ensemble, il y avait une circulation des publics en fait. Et puis en plus, tout le Parc Chanot s'est restructuré, ils ont fait des travaux. Donc on a eu une perdition du public assez importante. Les parkings sont devenus payants. Et on a voulu venir en centre-ville et se rapprocher des publics dans un espace qui circulerait plus aisément. Tout est gratuit, tout est ouvert voilà, et il nous importe de capter aussi des publics qui n'ont pas forcément l'habitude d'aller en librairie, mais qui peuvent aussi faire des découvertes pendant ce festival. Voilà, ce qu'on a gardé aussi, et puis oui, Lire en fait, c'est surtout que on l'a su un an avant, mais ça a été supprimé au niveau national. Donc ça veut dire les subventions qui vont avec, toute la communication qui allait avec. Voilà. Donc la dernière année de Lire en fête, lorsque ce dispositif existait encore, on a appelé notre manifestation « Les littorales-lire en fête à Marseille ». Et quand Lire en fête a disparu, on a sauvé les littorales et on s'est installé sur le cours d'Estienne d'Orve. Ce qu'on a gardé aussi de Lire en fête, c'est cet état d'esprit, même si on a moins de place ici sur le cours d'Estienne d'Orve, et c'est de travailler avec les partenaires culturels locaux. Voilà, on a fait une soirée en partenariat avec le FID, on a travaillé avec la BDP pour la journée de réflexion. Et nous avons encore des associations essentielles, qu'on considère essentielles dans le paysage du livre à Marseille, notamment voilà, nos trois invités aujourd'hui. Donc, voilà, vous en parlez.
La CELAM, c'est la Forta Vortel et Aprosculture et Territoire.
Voilà, tout à fait, qui sont présentes donc sur la manifestation. Dernière chose aussi que je voudrais rajouter, qui a été conservée aussi de ces partenariats dans le cadre de Lire en Fête, c'est l'atelier Vis-à-vis, l'association Atelier Vis-à-vis, qui organise donc cette année la 14e édition des rencontres internationales de l'édition de création, qui sont donc installées sous le deuxième grand chapiteau sur le cours d'Estiendorf.
Et il y a un mini-festival de BD aussi, je crois.
Alors oui, donc tout ce que fait l'association, c'est en partenariat avec les libraires, c'est pour les libraires, c'est avec les libraires. Et il se trouve que la librairie La Réserve à Bulles, qui est spécialisée bande dessinée, en partenariat avec une autre association, organise un festival qui est en train de prendre de l'ampleur, qui s'appelle Badam. Et dont une partie qui se déroule sur un mois et dont une partie se déroule là pendant les littorales avec des ateliers et des auteurs en signature et des débats avec des auteurs de bande dessinée, oui.
Donc le livre est au centre de cette manifestation et du coup y a, les auteurs sont aussi un peu au centre. Il y a de multiples auteurs présents pendant tout ce week-end à Marseille, une trentaine d'auteurs je crois.
C'est ça, en tout on accueille une trentaine d'écrivains. On a accueilli un cinéaste, on a accueilli aussi un chorégraphe dimanche à 17h, et donc écrivain, auteur, illustrateur, bande dessinée, et aussi littérature jeunesse, album jeunesse. Et cette diversité aussi, elle est tout simplement parce que c'est ce qui illustre ce thème-là, frontières en mouvement. Alors bien sûr, quand on dit frontières, la première frontière qui nous vient à l'esprit, ce sont les frontières géographiques, ce qu'on a évoqué hier à la BDP, entre autres, avec Frédéric Valabrec, par exemple, sur les candidats à l'immigration, qu'on va évoquer aussi avec Marie Cosnet cet après-midi, qui a écrit un très beau livre très intéressant aussi à ce sujet. Mais c'est aussi de mettre en évidence les frontières poreuses entre les disciplines. Donc la littérature, le théâtre, le cinéma, la danse, voilà, la place du texte et des mots, mais aussi cette manière qu'ont les disciplines d'emprunter les unes aux autres, de composer aussi ensemble et d'agiter la créativité.
Et d'ailleurs, dans ces littorales, donc tu l'as dit, il y a eu des projections de cinéma, il y a aussi des spectacles, un spectacle de danse, je crois. Et là, tu dois nous quitter pour aller assister à un vernissage à Agnès B.
Voilà.
Quel est ce vernissage?
Parce qu'on a invité, à partir d'un livre qui s'appelle « Novembre à Bamako » aux éditions Le Bec en l'air. L'auteur, c'est Valérie Marin-Lamellé, qui est une spécialiste, parallèlement à ça quand même, une spécialiste de la littérature africaine, et qui a écrit ce livre, et les images, les photos sont de Christine Fleurant. Donc nous avons proposé à Agnès B, qui a une toute petite galerie, donc sur le cours d'Estiendorf, d'exposer un certain nombre de photos de Christine Fleurant, extraites de ce texte. Et là, effectivement, à 12h, a lieu donc le vernissage et une rencontre avec les deux auteurs du livre, et l'exposition est prolongée. Vous pourrez la voir même si vous n'assistez pas à la rencontre à midi, jusqu'au 29 octobre.
Merci Marie-Dominique, bon vernissage alors et bonne
Merci.
Manifestation. On va continuer cette conversation autour du livre à Marseille, donc avec Agnès Gatef, qui est libraire, la librairie La Tramo. Elle se trouve où, cette librairie, Agnès?
Rue Paradis, à Marseille, en fait au niveau de Castellane, parce que la rue Paradis, elle va de la Canebière au Prado 2, donc c'est à peu près au milieu de la rue, voilà.
Alors, c'est la troisième édition des Littorales, c'est une année un peu particulière aussi pour le livre, puisque c'est les 30 ans de la loi sur le livre, mise en place par Jacques Lang en 81. Alors, on en a parlé un petit peu avant cette émission, moi je disais, parce que j'avais en tête le rapport d'Hervé Guémard autour du livre, là, récemment, je crois qu'il a écrit ça en 2009, où il disait « c'est super cette loi sur le livre, il faut la garder, il n'y a que des effets positifs ». Agnès, tu m'as dit là que non, c'est pas si gagné que ça. Et que...
Pas tant que ça, non.
Alors pour quelle raison?
Je pense que le discours n'est pas très bien passé auprès du public. Moi, je vois bien à la librairie un certain nombre de personnes qui arrivent en pensant que les livres sont moins chers sur les grandes surfaces. Parce que les grandes surfaces mettent en avant les 5% qui sont possibles par rapport à la loi Lang. ce que ne font pas les indépendants. Ils le font par rapport à des cartes de fidélité. Mais on ne le met pas en gros en disant... Et nombre de clients arrivent en nous disant « Mais ce livre, vous le faites à quel prix ?» On le fait à aucun prix. On fait au prix du livre, de ce qui est indiqué sur la couverture, qui est fixé par les éditeurs. Et le prix du livre en France est le même partout. Donc ça, c'est d'ailleurs pour ça que des librairies indépendantes existent. Parce que le tissu des libraires indépendants de Marseille est très éclectique. Vous avez des librairies relativement importantes, type Prado Paradis ou Maupetit. Et vous avez des petites structures. Moi, c'est une toute petite structure. Donc pourquoi des librairies comme ça, qui travaillent dans les quartiers, qui font avec le tissu social local, on existe vraiment grâce au prix du livre. Cette loi Langue en 81, qui était une promesse de Mitterrand, n'existerait pas. Des lieux comme celui dans lequel je travaille et que j'ai créé il y a quelque temps n'existeraient pas. On ne pourrait pas faire face effectivement aux FNAC, aux grands centres culturels. Donc cette loi du livre fait que les indépendants existent.
Et quelles sont les menaces qui pèsent sur cette loi ?
Ben, elle est menacée régulièrement parce que, par l'Europe en particulier, parce qu'elle n'existe pas partout en Europe, bien que certains pays l'aient votée, mais pas tous, donc régulièrement. Et puis il y a eu beaucoup de réflexions par rapport aussi à l'arrivée du numérique. Les éditeurs sont montés au créneau aussi sur le numérique pour dire qu'il fallait un prix fixe également sur le numérique. Donc le livre est de toute façon tout le temps en réflexion, en mouvement, et elle est très régulièrement remise plus ou moins en cause. Et heureusement, on a des politiques qui jusqu'à maintenant ont bien compris qu'il fallait la défendre, que c'était ça aussi qui permettait de défendre une variété au niveau de ce que nous proposons dans nos librairies. Parce que autrement, eh bien, ça serait la grosse cavalerie qui arriverait sur les tables et on défendrait plus des choses plus intimistes. Or, ce prix du livre fixe permet aux libraires de décider de maintenir en magasin des livres qui ne se vendent pas tellement pour des raisons politiques et non pas forcément seulement économiques.
Là, on parlait du livre en général et des librairies indépendantes qui sont au nombre de 19, je crois, à Marseille. Il me semble avoir aperçu, pour parler plus particulièrement des librairies indépendantes à Marseille, qu'un des soucis majeurs des librairies pour continuer à exister dans la ville et permettre ainsi un accès aux livres à tout le monde, sans avoir besoin d'aller dans les gros supermarchés, puis surtout une diversité, c'était le prix des loyers qui flambait à Marseille.
Oui. Alors le bail, les baux commerciaux sont un vrai problème parce que il arrive quand vous arrivez en fin de bail qu'un propriétaire tout d'un coup ait une folie des grandeurs absolue et décide que la valeur de son bien est multipliée par 2, 3 et que tout d'un coup vous ayez un bail, oui, dont le prix du loyer va augmenter. On a eu l'odeur du temps il y a quelques temps qui a eu le problème. Et là, il faut que la ville intervienne parce qu'effectivement nous sommes dans des économies fragiles. Le fait qu'on ait le prix du livre nous protège d'une certaine manière, mais d'un autre côté, on a des marges, puisqu'il faut parler économie, on est aussi là pour faire de l'économie, on a des marges infimes. C'est-à-dire que pour vivre correctement, il faut qu'on ait un volet de clientèle et de vente très important. Or, si tout d'un coup, vous avez un propriétaire qui vous dit qu'il va vous tripler votre loyer, mais ça peut mettre complètement en déroute votre fragilité de trésorerie. Donc il faut que là, dans ces cas-là, la ville soit interventionniste. Oui, oui, oui.
Agnès Gattaf, qu'est-ce que c'est le métier de libraire aujourd'hui ? Est-ce que c'est très différent de ce que c'était il y a 30 ans, au moment de l'instauration de ce prix unique du livre ? Est-ce qu'il y a beaucoup de changements dans ce métier ou pas ?
Ben, je pense que c'est avant tout évidemment un métier de passion, pour les raisons que j'ai évoquées précédemment. C'est souvent les libraires ont des économies fragiles, donc il faut vraiment s'investir. Je pense que ça n'a pas tellement changé. Ce qui va probablement changer, mais ça je crois qu'actuellement on n'a pas énormément de visibilité, c'est l'arrivée du numérique, parce que le numérique a changé nos vies au quotidien et qu'il va probablement changer les choses. Mais ça c'est peut-être la génération suivante qui s'en apercevra vraiment, parce que pour le moment on sent quand même qu'il y a un attachement au papier, quoi. Et je pense que c'est encore un métier fait de beaucoup de passion.
Mais le numérique, ça concerne pas que l'attachement au papier, parce que par exemple, on sait que des éditeurs aujourd'hui peuvent être tentés de s'adresser directement aux lecteurs en se passant d'intermédiaires par le biais du numérique, justement.
Oui, mais je pense que tout le monde a bien conscience aussi que le numérique, on ne maîtrise pas complètement les choses. Et qu'il faut vraiment être attentif à comment les textes passent, comment ils vont être... et qu'il y a quand même besoin d'intermédiaires. Enfin, moi, au niveau de ce qui se passe à la librairie, je sens quand même beaucoup, même si les gens s'intéressent de près à l'évolution technique qui arrive, c'est que quand même la littérature s'adresse à quelque chose d'intime et qu'on a envie de communiquer entre nous, qu'on a envie d'en parler, que les gens ont envie d'être conseillés. Il n'y a rien de plus agréable que d'avoir quelqu'un qui arrive qui vous dit « Bon, qu'est-ce que vous pouvez me donner à lire ?» et où vous lui communiquez la passion sur un texte, que la personne vous revient en disant « Mais ce texte-là m'a bouleversé, m'a ému, a presque changé ma vision des choses sur certaines données. » Et ça, les écrivains qui viennent nous voir en librairie, c'est pareil. Quand ils viennent rencontrer leur public, c'est ce retour-là qu'ils attendent. Donc la littérature, c'est pas qu'un objet marchand. C'est pour ça qu'il y a eu la loi Lang. C'est qu'on s'est dit, c'est pas une marchandise comme les autres. Eh bien oui, donc même pour le numérique, je pense que c'est pas une marchandise comme les autres.
Alors, une dernière question, Agnès Gatef, de la librairie La Trappe-Mou, parce que je sais que vous devez rejoindre votre stand rapidement pour répondre aux sollicitations du public. Nombreux, nombreuses. on est en période de rentrée littéraire. Alors pareil, sur la différence qu'il pouvait y avoir il y a 30 ans, métier de libraire et aujourd'hui, je ne sais pas, il y a 30 ans, combien de livres sortaient au moment de la rentrée littéraire. Mais aujourd'hui, c'est pas loin de 700. Comment on se débrouille quand on est libraire avec 700 nouveaux livres comme ça qui déboulent ?
Eh bien, on se mouille et on fait des choix. Tout le temps. C'est un choix un peu compliqué parce qu'il faut à la fois avoir des choses qui sont...
Vous lisez les 700 et après vous choisissez ceux qui vous...
Vous me croiriez si je vous disais ça. Je pense que je ne veux pas avoir cette hypocrisie-là. Mais par contre, bon, le choix, il se fait entre des données très économiques. Évidemment, il y a certains best-sellers qu'on se doit d'avoir. Et puis après, c'est des choix personnels, évidemment, engagés. Voilà. Donc, ça se prépare très en amont, depuis 3, 4 mois, 5 mois avant, avec des rencontres avec les éditeurs, avec les auteurs quand ils peuvent se déplacer. Et après, c'est un choix fait, je pense, d'engagement, de goût, parfois d'intuition. Voilà. Mais on remet souvent en cause les choses. Parfois, on se dit ce livre-là va marcher et puis en fait on n'arrive pas à convaincre les gens. Pourquoi ? Donc c'est toujours une remise en cause. Mais c'est un moment important de l'année, ça c'est sûr. Oui.
Merci beaucoup Agnès Gatef.
Merci à vous.
On vous laisse donc rejoindre votre stand de la librairie La Trappe-Mou dans cette manifestation d'éditorial qui se tient donc depuis le 12 octobre dernier jusqu'à demain dimanche sur le cours d'Estienne d'Orve. Les grandes tentes blanches, c'est là-dessous que ça se passe. Et c'est là-dessous où nous sommes. Alors on va maintenant discuter avec trois associations qui ont été invitées par les libraires. Donc l'association C'est la faute à Voltaire. L'ACLM qui anime les espaces lecture et approche culture et territoire qui est au cœur d'un réseau autour des mémoires de l'immigration qui propose de multiples manifestations en région PACA. Alors on va commencer par Laetitia Bourgine, donc c'est la faute à Voltaire. Est-ce que vous pouvez nous rappeler comment est née cette association, depuis combien de temps elle existe et quels sont ses buts ?
Oui, je peux. Bonjour. Alors, c'est la faute à Voltaire est née en 1996 à partir d'un constat qui était le suivant. Il y avait une ressource de livres existant notamment chez des grands lecteurs. Voilà, ou chez des personnes qui, à l'occasion de changements dans leur parcours de vie, avaient besoin de trouver une destination pour une grosse quantité de livres dont ils ne pouvaient pas continuer à se charger. Et puis, d'autre part, existent à Marseille, comme dans beaucoup de villes, des structures à caractère social qui accueillent des personnes qui rencontrent des difficultés de parcours, de vie, des personnes qui y passent du temps pour différentes raisons. Ça peut être quelques heures, ça peut être quelques jours, parfois quelques mois. Et dans ces lieux, il n'y avait pas du tout d'offre de lecture. Donc l'idée de départ des fondateurs, ça a été d'imaginer un circuit solidaire qui permette aux ressources de livres existant chez les particuliers de créer des bibliothèques dans les structures à caractère social pour offrir aux personnes qui y passent du temps les richesses, voilà, de la lecture. Ça a donné lieu à un travail singulier qui est toujours le même depuis l'origine, c'est que le point de départ de notre travail, c'est de recueillir des livres sous forme de dons. Voilà, tout au long de l'année, on reçoit en général à peu près 30 000 ouvrages par an que nous, des particuliers nous confient, en sachant que nous allons les utiliser principalement pour créer des bibliothèques dans des structures à caractère social, de type foyer d'hébergement ou accueil de jour pour SDF, et que ces livres vont avoir une deuxième vie auprès de publics qui vont pouvoir trouver voilà, un moment de bien-être, un moment de détente, et l'occasion peut-être d'amorcer des échanges avec d'autres personnes sur autre chose que leurs difficultés à partir de la présence de ces livres. On travaille chaque année avec une quinzaine de structures partenaires et il y a toute une équipe, c'est la faute à Voltaire, dont le travail est à la fois d'accueillir les donateurs, de réceptionner les dons dans un espace librairie que nous avons au cours Franklin Roosevelt. D'alimenter cet espace librairie qui fonctionne comme une librairie traditionnelle mais en librairie d'occasion. Possibilité du coup pour le tout public de se procurer de la lecture à petit prix. Et à partir de ce travail de recueil de dons, une autre partie de l'équipe sélectionne des fonds que l'on met gratuitement à disposition des structures à caractère social et qu'on installe sous forme de bibliothèque, à partir desquelles on peut aussi proposer aux publics qui sont accueillis des temps de rencontre et d'animation autour du livre, de la lecture, des mots, de l'écriture.
Vous parlez de dons de particuliers. On sait pourtant que les bibliothèques municipales, par exemple, pratiquent quelque chose qui s'appelle le désherbage, où elles se débarrassent de pas mal de livres dont elles n'ont plus l'utilité. C'est pas des livres auxquels vous avez accès ?
Alors, ça n'est pas quelque chose qui s'est mis en place dans la mesure où ces prêts-là ou ces dons-là ont été traditionnellement réservés, si ma mémoire est bonne, à des structures type structures scolaires ou centres sociaux. Voilà, on s'est inscrit dans un autre type de circuit, ce qui ne veut pas dire qu'on n'ait pas de lien avec les bibliothèques, notamment parce que la finalité de notre travail, c'est finalement de permettre aux personnes que l'on rencontre d'accéder progressivement à l'offre de droit commun. Donc il y a aussi tout un travail de sensibilisation et de familiarisation des personnes avec l'univers du livre, dans l'idée qu'un jour, au moment où elles en seront capables, elles puissent se sentir autorisées à pousser la porte d'une librairie ou d'une bibliothèque, comme n'importe quelle personne voilà, pourrait le faire.
Qu'est-ce qui empêche, selon vous, aujourd'hui, ces personnes de pousser la porte d'une bibliothèque ou d'une librairie ?
Je pense qu'il y a deux causes principales. Il y a le fait que ce sont des personnes qui, pour différentes raisons, ont connu des parcours chaotiques, qui les ont soit éloignées du livre, voilà, et de l'univers de la littérature, soit, sans les en éloigner complètement, un parcours qui les... qui les met dans des préoccupations telles qu'elles deviennent des priorités au quotidien. Elles en sont, trouver un toit, trouver de quoi se nourrir, éventuellement trouver une activité professionnelle, voilà. Et du coup, elles ne s'autorisent plus à s'accorder des moments de divertissement, des moments d'évasion, des moments de repos. Avec un livre ou avec un papier et un stylo, alors que nous sommes convaincus, nous, que c'est l'occasion pour tout un chacun, à un moment donné, de reprendre des forces, de rester inscrit dans des liens avec le monde, qui ne soit pas seulement marqué par les difficultés que l'on rencontre. Voilà. On défend l'idée que la culture est effectivement un droit pour tous et qu'on doit pouvoir le faire valoir, même et peut-être surtout quand on traverse des épreuves de la vie.
Quelles sont les principales difficultés que vous rencontrez dans ce travail ?
On est une association. Forcément, c'est toujours chaque année un équilibre délicat à réaliser pour trouver les moyens de poursuivre notre action. Voilà, si on devait évoquer des difficultés, elles sont sans doute principalement là. Après, il y a peut-être que dans votre question, il y avait l'idée de savoir si apporter la lecture auprès de publics qui en sont éloignés représente des difficultés particulières. Bien entendu que ça nous demande de développer une approche spécifique qui repose avant toute chose sur la création d'un lien de confiance avec les personnes que l'on va rencontrer et qui repose principalement sur l'idée de leur offrir quelque chose avant même de leur demander quoi que ce soit. Voilà, notamment de leur offrir des moments agréables où nous leur proposons de la lecture, où nous leur faisons la lecture, de les inviter à un échange, d'être à l'écoute de ce qu'elles peuvent avoir à nous dire, de leur centre d'intérêt, de leurs préoccupations, et progressivement d'utiliser cette discussion qui s'engage avec elles pour les inviter à profiter de ce que nous, on a à leur proposer. Voilà.
Christine Bernard, ce travail que mène l'association C'est la faute à Voltaire semble relativement proche de ce que la CLM peut proposer dans ses espaces lecture. Je me trompe ?
Non, vous ne vous trompez pas, bonjour. Effectivement, nous avons des philosophies qui sont très proches en ce qui concerne le droit à la culture, le droit à pouvoir accéder aux livres, et à pouvoir accéder à de belles choses et à exprimer de belles choses et à maîtriser la langue et permettre effectivement de dénoncer ses idées, dénoncer ses sentiments. Ça sont des choses qui nous rapprochent beaucoup. C'est la faute à Voltaire, travaille effectivement avec un public empêché de par sa situation sociale, personnelle, hein, comme le dit Laetitia, il y a des accidentés de la vie, hein, il y a eu des parcours plus ou moins difficiles. Nous nous sommes installés dans les quartiers où les gens n'ont pas une vie non plus excessivement facile et où ils sont éloignés également des structures culturelles, des bibliothèques. D'ailleurs, c'est pour ça que les espaces lecture ont été créés, parce que ces gens-là sont loin des structures de lecture publique. Et de la même façon, le livre n'est pas forcément leur première priorité. Et nous sommes là pour leur montrer qu'effectivement, que par le livre, par l'expression, par la lecture, l'écriture, le dialogue aussi, la relation aux autres, on peut aller plus loin que les murs de la cité.
Il y a combien d'espaces lecture à Marseille ? Et ça existe depuis combien de temps ?
Alors, les espaces lecture, le premier espace lecture, c'est l'espace lecture de la Savine, qui a vu le jour en 1993. C'était une expérience, hein. Mettre un lieu dédié aux livres au bas d'un immeuble, au plus près de la population d'une cité. Et l'expérience est avérée concluante, puisque d'autres sont ouverts. Et on a ouvert le dernier à Édouard Vaillant, dans le quartier de Saint-Mauron, qui est un quartier également extrêmement, j'aime pas le mot, mais difficile, comme on dit certains, en février dernier. Donc voilà, c'est cet espace lecture aujourd'hui géré par la CLM.
Alors, depuis tout à l'heure, on parle de livres et de lecture. On a l'impression qu'aujourd'hui, la lecture peut se passer de plus en plus de cet objet qui est le livre. Aujourd'hui, la lecture se développe à travers plein de médias différents. Comment vous réfléchissez sur ces questions de lecture ? Est-ce que pour vous, le livre reste toujours central dans vos projets ? Ou vous avancez sur d'autres pistes ?
Bien évidemment que le livre restera notre objet principal.
Pourquoi ?
Parce que c'est un objet qui peut se partager ou qui peut se déguster seul de la même façon. Et ça, c'est unique au livre. On peut le transporter, on peut l'emmener avec nous facilement. Il y a une facilité d'accès au livre papier. C'est un objet aussi qui peut avoir un côté affectif. Et une relation qui s'établit avec un livre, et ça c'est important aussi pour notre public. Après, des lectures, effectivement, il y en a beaucoup sur différents supports. Elles sont complémentaires au livre. La CLM a choisi d'introduire l'outil multimédia, par exemple, il y a une petite dizaine d'années. C'était un grand débat. Il y avait les acharnés et puis il y avait les réfractaires, hein, en disant le livre, que le livre, toujours le livre. Oui, certes, mais le multimédia permet... Déjà, quand on utilise un ordinateur, il faut lire. Donc, il faut maîtriser la lecture. C'est un très bon exercice de lecture. Il faut comprendre ce qu'on lit, il faut adapter une consigne, etc. Ensuite, ça permet dans certaines activités, d'aller plus loin que le livre papier ou de le précéder, de le compléter. On va chercher dans des documentaires des sujets, on fait des recherches, etc. Et puis on va le compléter sur Internet. Donc on apprend aussi à utiliser l'outil Internet. Après, il y a la lecture d'images. Nous sommes très, très favorables à tout ce qui est illustration, expression artistique, parce qu'on considère également que c'est une expression forte dans laquelle les personnes ont moins de difficultés peut-être à aller que l'expression écrite, parce qu'ils ont l'impression que c'est plus facile pour eux. Et la lecture d'images, que ça soit dessinée ou photographique, est quelque chose qu'on utilise aussi beaucoup. Donc pour moi, tous ces moyens sont complémentaires. Quant au livre numérique dans les espaces lecture, non, on n'en verra pas.
C'est définitif. Pourtant, c'est le numérique, bon, c'est un autre support, mais on peut imaginer aussi que ça change les façons de lire, les habitudes de lecture, et que petit à petit, ce changement des façons de lire, des habitudes de lecture risquent...
Oui, quand je dis on n'en verra pas dans les espaces lecture, si effectivement les gens qui viennent chez nous, bah, comme le disait Laetitia, nous aussi, nous avons pour vocation d'être passerelle avec les lieux de lecture publique, hein, d'amener les gens quand ils deviennent bons lecteurs et qu'ils disent « mais il n'y a rien, il n'y a pas ça », mais tu vas prendre ta carte à la bibliothèque, les papiers sont là, tu as les horaires, les modalités d'inscription. Et si après ces mêmes gens se mettent au livre numérique, c'est leur choix. Hein.
Donc Alors, tout à l'heure, Laetitia, c'est la faute à Voltaire, nous disait que leurs fonds étaient constitués de dons de particuliers. Comment vous constituez vos fonds ?
Alors, nous fonctionnons avec une partie de prêts qui nous sont faits par la Bibliothèque municipale de Marseille, et la BDP, la Bibliothèque départementale de prêts. Donc, chaque espace lecture a un fonds d'ouvrage qu'il emprunte en fonction de ses besoins, en fonction de ses actions, en fonction de son lectorat, en fonction des choses sur lesquelles il veut travailler, et que nous mettons également à disposition du public, puisqu'il peut les emprunter. Et puis après, nous avons également des dons. Alors, nous, c'est nous qui bénéficions des désherbages, par exemple. Voilà, ces livres qui sont retirés des collections des bibliothèques municipales, nous avons le grand bonheur de pouvoir les recevoir quand elles correspondent effectivement à nos besoins, et de pouvoir les mettre à disposition de nos lecteurs. Ce qui nous permet d'avoir des fonds, une partie qui est renouvelée relativement fréquemment, puisque ça se passe 3 fois dans l'année pour chaque espace lecture, donc c'est quand même important, et puis des fonds propres qui viennent enrichir le fonds.
Les emprunts, on sait que dans les bibliothèques, depuis quelques années, sont devenus payants. Est-ce qu'ils sont payants aussi dans les espaces lecture ?
Les emprunts sont payants pour les adultes, pas pour les enfants. Dans les espaces lecture, nous demandons une participation symbolique qui est de l'ordre de 1,50€ par enfant et de 3€ par adulte à vie. Mais c'est parce qu'il faut s'inscrire, parce qu'il faut faire cette démarche-là, que c'est une petite responsabilité d'emprunter quelque chose qui ne vous appartient pas, de l'amener à la maison, de penser à la ramener. C'est un petit peu symbolique, mais c'est aussi le moyen de montrer qu'effectivement, ben, y a des services qui demandent un petit engagement.
Ramzi Tadros, vous êtes directeur de l'association Approche Culture et Territoire.
Chargé de mission,
un autre mot pour coordinateur, non ?
Voilà, oui.
Donc, est-ce que, Ramzi, vous pouvez nous raconter un peu comment est née cette association et quelles sont ses activités ?
Oui. Bonjour, Marc, et puis tout le monde. Je repartirai de ce qu'ont dit mes collègues associatifs, Laetitia et Christine. Et je reprends des choses qui ont été dites tout à l'heure. C'est la faute à Voltaire. On a constaté à la naissance de l'idée qu'il y avait des livres, des ressources chez beaucoup de gens, et qu'il y avait des structures sociales où il y avait des personnes qui étaient éloignées de la lecture, et donc c'est ce travail. Le Approche Culture et Territoire est né sur la même idée. Il y a des ressources, il y a des experts, il y a des écrits, il y a des penseurs. Et il y a des besoins dans la société, dans, que ce soit dans les écoles, dans les associations, dans les quartiers, et qu'il fallait une médiation. Donc c'est cette idée de faire passer les ressources d'un lieu à l'autre, mais aussi, et ça c'est l'expérience depuis 5 ans, de faire remonter ce que créent les quartiers, ce que créent les associations dans les quartiers, les stands de la CLM et de la Faute à Voltaire, entre autres, le montrent. Il y a eu aussi une créativité, aussi la faire remonter si on fait une hiérarchie entre le bas et le haut. Ça, c'est la première chose. Donc, c'est pour cela qu'on travaille dans plusieurs territoires, qu'on travaille avec des associations comme la CLM et donc les espaces lecture. Et on essaye aussi d'amener des personnes qui ont envie de travailler avec les publics différents. Donc deux choses dont les gens peuvent consulter sur notre stand actuellement, c'est le catalogue de ressources sur le 15-16e arrondissement, production culturelle et pédagogique. Donc nous avons travaillé avec la bibliothèque Saint-André sur le 15-16e arrondissement pour lister, présenter dans ce catalogue tout ce qui, sans exhaustivité parce que c'est pas possible, qui a été produit sur le quartier par le quartier. Et en même temps, vous parliez tout à l'heure de la Biennale, effectivement, la Biennale Histoire et Mémoire des Immigrations et des Territoires fait un peu le même processus sur des manifestations qui existent partout dans la région et particulièrement à Marseille et dans le département qui traitent cette question d'histoire et de mémoire. Quand vous avez commencé à nous interroger, et les uns et les autres, vous êtes partis de... pourquoi les littorales, comment les littorales, pourquoi les ACLM, pourquoi la Faute à Voltaire. C'est très important de s'approprier cette histoire, surtout que la question de fond, qui est même à travers les autres questions qui ont été posées sur le prix du livre, c'est effectivement cette frontière et cette impossibilité pour certains de traverser la frontière dans les deux sens, entre les lieux et les personnes qui sont empêchées d'accéder à la culture. Et c'est pas simplement une consommation, la culture, c'est aussi un outil pour s'émanciper. Et c'est peut-être là-dessus c'est ce qui nous rassemble.
On dit de plus en plus émanciper, c'était ce qu'on disait il y a plusieurs années, maintenant on dit plutôt pour s'intégrer.
Oui, bon, c'est même on essaye de nous renvoyer à des choses qui enferment. Notre présence, je pense, ici à cette table et dans le cadre des littorales l'explique bien. Les frontières sont posées pour empêcher de passer. L'intégration, le mot intégration parle de frontières. Hein, il dit il faut passer d'un lieu à un autre, alors que émanciper, c'est vraiment se marcher en avant, quelles que soient les frontières qu'on nous impose.
Approche culture et territoire, je crois que le rapport là aux nouvelles technologies de l'information et de la communication qui commencent à être moins nouvelles
oui.
est très important.
Oui, alors moi j'ai bien entendu les questions posées tout à l'heure, j'ai bien apprécié la réponse de Christine de la CLM, mais pour nous c'est un outil, c'est pas plus, pas moins. C'est-à-dire que, à un moment donné, l'outil numérique, l'informatique et Internet est tout à fait comparable à. Je prends une image. Pour nous, Internet, c'est une bibliothèque, mais qui n'est pas rangée du tout, hein, et dans laquelle arrivent constamment des choses, et qu'il faut, comme il a fallu des bibliothécaires pour ranger, pour classer pour donner à lire, ou les libraires même, il faut des gens qui le travaillent. Il n'y a pas encore, ça n'existe pas le métier d'internothécaire, mais il faudrait l'inventer, parce qu'effectivement... Donc nous, on le fait à notre niveau, avec nos moyens. On s'est dit, il y a suffisamment de bibliothèques, de centres de documentation. Par contre, il y a une documentation énorme qui n'arrête pas de s'enrichir et des fois de disparaître, parce que l'électronique est aussi volatile, hein, malheureusement. Donc il s'agit de fouiller là-dedans et d'essayer de travailler ensemble sur qu'est-ce qu'on peut y trouver.
Donc, le public fait coucou aux intervenants. Coucou. Quelle est l'importance pour vous, donc c'est la faute à Voltaire, ACLM et Approche Culture et Territoire, participer à cette manifestation des littorales, et qu'est-ce que vous êtes venu présenter précisément ici? Alors, on peut peut-être repasser le micro à Laetitia, de C'est la faute à Voltaire.
Alors, l'importance pour nous de participer au littoral, je crois que finalement c'est assez simple. On est un des acteurs du livre, il y a d'autres acteurs du livre, et il n'y a pas de raison a priori qu'on ne joigne pas nos forces, voilà, pour défendre le livre dans tous ses états, je vais dire ça comme ça, et pour tous les publics qu'il peut intéresser, auxquels il peut apporter quelque chose. On a un lien relativement historique avec l'association Libraire à Marseille. On a été sur les premières éditions de Lire en Fête. Ils nous ont encore conviés sur la nouvelle formule des littorales. Ils nous ont apporté leur soutien quand nous-mêmes nous avons créé une manifestation qui s'appelait la Fête des mots en 2007. Voilà, donc tout ça se fait, me semble-t-il, assez naturellement, et peut-être pas le mot, mais là il m'en vient pas d'autres.
Logiquement.
Logiquement. On vient montrer ce que nous faisons, nous faire connaître, rencontrer le public habitué, familier du livre, mais aussi les habitants du quartier, d'autres partenaires. C'est rendre visible notre travail. Et ce qu'on propose, on le propose cette année dans une association, pas de malfaiteurs, mais un peu originale, avec la CLM, qui est aussi un de nos partenaires historiques. Et je vais peut-être même laisser Christine vous expliquer ce qu'on propose cette année.
Christine, donc, pour les ACLM Espace Lecture.
Alors, comme vient de le dire Laetitia, notre présence sur l'illittoral est assez naturelle, puisqu'effectivement, nous avons été invités depuis très, très nombreuses années à cette manifestation, déjà au Parc Chanot, quand c'était Lire en Fête. Et c'est avec beaucoup de bonheur que nous venons participer à cet événement culturel. Comme le dit Laetitia, décidément, tu dis beaucoup de choses très bien. Nous sommes un acteur du livre, nous nous considérons comme des acteurs du livre, et nous venons montrer le travail qui est fait dans les espaces lecture sous la forme de livres originaux, de livres uniques, qui sont réalisés suite aux ateliers d'animation que les animateurs culturels proposent dans ces lieux au public et qui sont faits tout le long de l'année. Et puis, donc, cette année, comme nous partageons un espace commun, donc, avec nos deux partenaires, avec C'est la faute à Voltaire, nous avons imaginé une animation complémentaire. Donc, le public qui est présent sur la manifestation est invité à participer à une animation, donc, proposée par C'est la faute à Voltaire, qui constitue une plage d'écoute de textes sur la mer, et également qui peut être complété ou pas d'ailleurs par des ateliers d'écriture sur les textes qui peuvent être écoutés, proposés par la CLM. Donc voilà, il y a une animation qui est à la fois complémentaire et différente, et on a imaginé un décor commun autour du thème même des littorales, donc cette frontière en mouvement. On a reconstitué donc un archipel de culture formé par nos deux associations et dans lequel nous avons plusieurs territoires. Nous avons et bien évidemment notre envie est de faire passer les frontières dans un sens comme dans l'autre, voire rester au bord du monde éventuellement si l'envie s'en fait sentir, en toute liberté et avec surtout beaucoup de plaisir, parce que c'est un des maîtres mots de nos activités, que les gens prennent du plaisir à participer à ces animations. Laetitia, tu veux rajouter quelque chose?
Peut-être juste compléter, parce que je me disais que la plage d'écoute, ça pouvait rester mystérieux pour ceux qui ne sont pas passés à proximité. Mais on a souhaité, autour de cette thématique, mettre en valeur un travail qui a été réalisé par C'est la faute à Voltaire il y a déjà 2-3 ans, et qui a consisté à rassembler des textes de la littérature et des textes émanant des ateliers d'écriture que nous proposons autour d'une thématique qui était celle de la mer. Et l'équipe de C'est la faute à Voltaire a travaillé à mettre en voix et à habiller sur le plan sonore tous ces textes pour créer un petit objet qu'on peut venir découvrir. La CLM, du coup, s'est emparée des textes que les gens peuvent écouter pour faire découvrir au public tout un panel de jeux d'écriture, voilà, plutôt agréable, qui donne l'occasion aux gens de se souvenir ou de découvrir que l'écriture, c'est un jeu aussi, c'est une source de plaisir. Voilà.
Ramzi Tadros voulait dire un mot sur l'importance pour Approche Culture et Territoire de participer à cette manifestation.
Ouais, il y a un mot qui a couru dans tous nos discours, c'est le lien. Et faire le lien et avoir des liens avec les publics, les quartiers. On a parlé tout à l'heure de tissu social, etc. Donc c'est là un lieu où se construisent des liens, parce que on ne parle aussi de frontières en mouvement, et à défaut de pouvoir abattre les frontières, eh ben on essaye de les bouger un peu. Et quand il y a un espace comme les littorales où se rejoignent les acteurs du livre, c'est le moment de se rencontrer, d'échanger, de voir ce que font les uns et les autres, de toucher, de lire, d'avoir envie d'acheter des livres, bien sûr, en même temps. Parce que je pense que, pour revenir à ces questions de numérique, juste une phrase, le livre est un passeur. La question, c'est de lui continuer ensemble à lui donner vie et circulation pour s'émanciper et non s'intégrer.
Une dernière question, on arrive au terme de cette émission. Une dernière question, donc il y a cette manifestation, les littorales, vous êtes présents et vous êtes présents au quotidien pour proposer C'est la faute à Voltaire, Approche Culture et Territoire et les ACM, un lien au livre au quotidien, à la lecture et à l'écriture. Mais on sait que là, les choses s'inscrivent dans une perspective un peu précise autour de 2013. Quelles sont vos façons, vous, de vous inscrire dans cette future année capitale européenne de la culture? Alors Laetitia, elle est tout à fait effondrée par la question.
Non, je ne suis pas effondrée. Pour ceux qui n'ont pas l'image, je tiens bon. Elle est difficile, votre question.
Quelle va être la place du livre, de vos activités, de vos associations dans cette manifestation 2013?
Écoutez, à minima, je crois qu'on peut espérer qu'on sera toujours là, voilà, avec notre activité habituelle, à défendre ce qu'on ne cesse de défendre, à permettre peut-être justement un niveau de participation populaire à un grand mouvement qui devrait être celui de la capitale culture, européenne de la culture. Sans doute qu'on va arriver à s'inscrire en contrepoint des grands projets qui sont d'ores et déjà lancés. On a imaginé, voilà, des formes d'action particulières à notre manière, d'ailleurs avec toujours la CLM comme partenaire privilégié. Voilà, et on ne désespère pas peut-être de croiser le public de Marseille, capitale européenne de la culture, à la gare Saint-Charles pour leur faire des propositions à notre manière, un petit peu loufoque, et on l'espère toujours intéressante et agréable autour de la lecture et de l'écriture. Et Christine, tu vas compléter.
Moi, je vais compléter, non pas en donnant d'autres informations par rapport à cet événement Marseille Capitale Culturelle. Effectivement, on espère nous aussi être toujours là, d'autant plus que les espaces lecture fêteront leurs 20 ans. Donc nous, en 2013, ce sera le cap sur les 20 ans. et puis bah, d'autres choses si l'occasion se présente, et en tout cas de permettre à notre public des quartiers de participer aux événements qui seront proposés en centre-ville et d'essayer effectivement aussi de croiser les publics. Et ça, c'est bon, la suite à venir. Mais ce sera d'abord nos 20 ans.
Ramzi ?
Ouais, pour nous, Marseille 2013, ça sera une étape, et je pense que mes collègues aussi, c'est-à-dire, c'est un moment. Et on a parlé de bouger les frontières, on essaye de bouger les frontières pour que les travaux, les quartiers, les personnes empêchées soient présentes à Marseille, que cette Marseille-Provence capitale européenne ne soit pas une frontière supplémentaire qu'on ajoute. Et donc, on essaye de bouger ces frontières, et on sera présent en 2013 et après.
Merci beaucoup à tous les trois. Donc Laetitia Bargine de C'est la faute à Voltaire, Christine Bernard des ACLM Espace Lecture, Ramzi Tadros de Approche Culture et Territoire. Et je rappelle que nous étions également en compagnie au début de cette émission d'Agnès Gatef de la librairie L'Attrape-Mot et de Marie-Dominique Russi, directrice de l'association Libraire à Marseille. C'était donc une émission réalisée depuis les littorales, depuis le cours d'Estienne Dorve à l'occasion de cette manifestation. Donc n'hésitez pas à venir vous promener sous ces tentes, rencontrer les libraires, feuilleter quelques livres et aller discuter avec Approche Culture et Territoire, C'est la faute à Voltaire et les ACLM. Merci beaucoup à tout le monde et à très bientôt sur les toilettes.